Le chemin spirituel de Benoît de Cantil. C'est une thèse. Alors imaginez, c'est une thèse. Donc, ça a tous les avantages et les inconvénients de la thèse, c'est-à-dire c'est pas forcément très simple. Bon, et néanmoins, c'est tout récent. C'est un capucin, un professeur de théologie à Rome, qui a publié ça l'année dernière. Alors, je me suis servi aussi de deux autres instruments grâce ancien collègue et ami, René Tixier, qui était professeur d'anglais à la faculté de droit de Toulouse, et qui, dont l'épouse enseignait avec moi pendant un certain temps aussi au Mirail. Alors, donc, il y a deux bouquins, un tout petit bouquin, qui est assez ancien, oui, un certain Paul Renaudin, et ça s'appelle « Un maître de la mystique française », Benoît de Canfield. Bon, c'est mon ami René, il s'est débrouillé pour prendre cette. Ça lui a été donné par l'ancien bibliothécaire de la maison des Jésuites à Toulouse, qui, quand ils ont liquidé la maison, ils ont liquidé la bibliothèque. Bien dommage, c'était une belle bibliothèque avec des choses. Voilà. Alors, il m'a passé aussi, et ça c'est beaucoup plus récent, enfin, beaucoup plus, fin des années 60, début 70. Alors, c'est l'œuvre dont on parlera cet après-midi. Oui, c'est tout petit. Ça s'appelle « La règle de la perfection ». C'est pour nous, hein. « La règle de la perfection »,« The rule of perfection ». Voilà. Et donc, je me suis servi de ces trois livres et d'un autre que je n'ai pas amené parce qu'il est en anglais et qui parle de la vie de Benoît de Canfield, mais aussi, lui, il en parle aussi. Voilà. Alors, pour introduire, alors ce matin je ne distribue pas de papier, on en aurait cet après-midi, mais je pense qu'on peut parler comme ça parce que c'est pour parler de la vie. Et je vais faire peut-être quelques citations éventuellement, mais je demanderai beaucoup d'indulgence parce que c'est souvent en français du XVIIe siècle, la langue de Molière et même avant Molière. Alors, il y a des tournures, bon, j'essaierai de les adapter à notre langage d'aujourd'hui. Alors, qui c'est ce Benoît ? Eh bien, on peut dire que sa vie, comme celle est tout à fait caractéristique, comme beaucoup d'autres, de la... avant l'alarme, mais peut-être encore avant la nouvelle alarme, on ne sait pas, que ce Benoît, c'est un fils de gentilhomme anglais, à la fin du XVIe siècle, et il est né dans une famille protestante, bien protestante, de la période qu'on appelle la période élisabéthaine, puisque c'était sous le règne de la reine Élisabeth Ier, qui pourtant avait fait des efforts, mais qui n'a pas réussi à vivre plus longtemps que son successeur, Élisabeth II. Voilà. Alors, ce fils, Benoît, il va connaître une conversion spectaculaire au catholicisme, ce qui est assez étonnant pour une famille puritaine. Il va donc se retrouver tout de suite en opposition avec la politique religieuse instaurée par la royauté, par la reine Élisabeth. Alors, Élisabeth, c'était quelqu'un qui essayait de faire des compromis. C'était la fille d'Anne Boleyn, c'est-à-dire de la seconde femme d'Henri VIII, qui, quand même, avait divorcé, etc., etc. Et donc, elle devient reine en 1558. Et en plus, elle est reine après la mort de sa sœur, Marie Stuart. Pas Marie Stuart, pas du tout. Marie Tudor, pas Marie Stuart, mon Dieu. Marie Tudor, qui avait essayé de ramener l'Angleterre au catholicisme. Elle était même allée jusqu'à épouser, sans jamais le rencontrer d'ailleurs, le roi d'Espagne très catholique, Philippe II. Elle avait essayé de l'épouser en 1556, puis elle est morte. Alors, aussitôt après, évidemment, les protestants ont récupéré le terrain. Et alors, deuxième chose surprenante chez ce fils de gentilhomme puritain sous le règne d'Élisabeth, voilà que sa conversion va le conduire assez vite à devenir religieux, religieux dans l'ordre des Capucins. Alors,
en pleine expansion,
c'est-à-dire, il va épouser, on peut dire, avec conviction, l'esprit de la réforme capucine, qui a été initiée en 1525, ça a été dit hier par Jean-Claude suffisamment, entre autres à Ancône par Mathieu de Bassio, voilà, qui lui-même déjà se situait dans une mouvance d'observant, hein, de... Alors, troisième point, les ouvrages qu'il a écrits, Benoît, reflètent avec fidélité l'esprit de la réforme capucine. Alors, je n'entrerai pas dans le détail des autres ouvrages, ils sont plus petits, j'y ferai peut-être allusion, mais l'ouvrage principal, celui qui est resté dans la mémoire, enfin, qui est même encore aujourd'hui lu par les spécialistes en tout cas, s'appelle, donc, comme j'ai dit, « La règle de perfection »,« The Rule of Perfection ». On verra cet après-midi pourquoi ça s'appelle de perfection. Alors, cette règle s'inspire à la fois des écrits de François et de Bonaventure, ainsi que ce qu'on appelle dans l'histoire de la spiritualité en Europe la devotio moderna, la dévotion moderne. À la fois dans une fidélité vraiment à saint François, Benoît était à la fois un profond contemplatif, un prédicateur exceptionnel et un serviteur des pauvres, quel qu'il soit. Pour donner une idée de son influence, il y a un livre célèbre, déjà ancien, qui s'appelle « Histoire littéraire du sentiment religieux en France ». C'était écrit par quelqu'un qui était connu autrefois, je ne sais pas si on encore le connaît, Henri Brémond. Voilà ce qu'il dit à propos de la règle de perfection. Il dit « La règle de perfection » a servi de manuel à deux ou trois générations de mystiques. De toutes les influences qui ont façonné la prière au XVIIe siècle, il n'y a pas une qui dépasse la sienne. » Bon, c'était un laïc, vraiment. Hein, c'est, voilà. Alors, plus tard, Jean Orcibal, celui qui a collecté donc, les manuscrits de la règle de perfection, qui était professeur à l'école des hautes études en sciences religieuses, dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant, dans les années 60, donc. Alors, il reproduit cette citation de Brémond et il ajoute « Si ces assertions semblent paradoxales, c'est que le livre, alors attendez-vous bien, mis à l'index, il a été mis à l'index un certain temps. » Oui, oui.
Pourquoi
Ah ben, on ne sait pas. Il est devenu pratiquement introuvable, bien sûr. Alors, le livre était devenu introuvable. Pardon ?
Les protestants n'y tenaient peut-être.
Oui, c'est ça, sûrement, oui. Si on en juge par l'alarme, oui.
Pierre-Louis, pardon. Tu as dit pendant plusieurs siècles ça accompagnait les religieux.
Non, surtout, là je dis c'est au XVIIe siècle, surtout les trois générations de mystiques du XVIIe, voilà. Mais pas seulement les franciscains ou les capucins, tout autre mystique aussi.
Je veux dire, c'est après qu'il a été mis à l'index.
Je ne sais pas.
Ça, c'est,
moi, il a juste dit ça. Alors, ça, il faudrait rechercher un peu plus. Je n'ai pas eu le temps. Hein. Enfin, il dit que donc, ce livre aurait été mis à l'index parce que des obscurités, d'après Rome, quoi, trahissent les états multiples qu'a pris au cours de 20 ans le projet originel. Alors, bien que plusieurs éditions aient disparu, nous en savons assez, dit Orcibal, pour tenter de suivre l'évolution de l'auteur et de répondre aux questions d'authenticité que pose son œuvre. Donc pour lui, il n'y a pas de problème, c'est authentique, et il y a simplement des morceaux dont il dit ça c'est dans la version anglaise, ça n'est pas dans la version française, ou vice-versa. Bon, un peu compliqué. Alors, donc, maintenant je vais surtout parler de la biographie de Benoît ce matin, et cet après-midi, j'essaierai de parler de la règle de perfection. Voilà. Alors donc, la biographie. Bon, originellement, ce monsieur s'appelait William Fitch, Guillaume Fitch, quoi. Et il est né en 1562, dans une famille de gentilshommes, dans le village de Canfield, c'est pour ça qu'il s'appelle Benoît de Canfield, au sein du comté d'Essex, donc au sud de l'Angleterre. Il était le second d'une fratrie de trois. Il était, semble-t-il, très aimé de ses parents parce qu'il avait, paraît-il, un naturel facile. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Son aîné, Thomas, selon la tradition dans la gentry anglaise, était l'héritier de la plupart des terres et des revenus de la famille. Le troisième, comme il savait qu'il hériterait pas grand-chose, le troisième, il s'appelait Francis, il épouse une veuve, riche. Voilà. Et comme ça, ça lui permet d'obtenir une certaine aisance, et qui plus est, même un titre très envié à l'époque de knight, c'est-à-dire un titre de chevalier. Donc il entre dans la noblesse. Vraiment noblesse, quoi. Voilà. Alors lui, William Fitch, donc futur Benoît, lui, c'était un travailleur acharné. Bon. Il était passionné par les études. Il se désintéressait des distractions habituelles des gentilshommes. Par exemple, la chasse à cour. Mais des fois, il était obligé d'y aller. Donc il est allé, mais il mettait toujours un livre sous son épaule, ou sous son bras plutôt. Et puis, la citation, c'est « ayant toujours un livre dans sa poche à tout moment qu'il pouvait en trouver l'occasion ». Voilà. Alors, dès qu'il en a l'âge, ses parents l'envoient à Londres. Il l'envoie à la fac de droit. Donc, c'est ce qu'on appelle les « Inns of Court ». Voilà. Ou bien, et encore aussi au Middle Temple, le temple moyen de Londres. Pendant 7 ans, il fait des études de droit. Néanmoins, il a déploré la mort précoce de son père, ce qui le marque beaucoup. Son père meurt alors qu'il n'avait que 16 ans. Mais son père lui laisse un tout petit héritage, donc un domaine qui est intitulé le Grand Parc de Canfield, en anglais Great Canfield Park. Alors, comme le suggérait en introduction, la famille est anglicane et puritaine. Alors, les puritains, savoir qui c'est une branche du protestantisme anglais qui ont interprété le système religieux, la reine Elisabeth, comme un compromis, mais ils l'ont interprété dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il y avait suffisamment de bonnes doctrines, mais en revanche, ils n'étaient pas contents qu'il y ait encore de la hiérarchie, des évêques, tout ça, machin, ça ne leur plaisait pas, mais du fait que la doctrine était bonne, alors voilà. Un jour, qui est appelé William à l'époque, va trouver dans la maison d'un ami un livre d'un jésuite. Un jésuite anglais très célèbre, moi je me rappelle avoir eu des choses là-dessus, qui s'appelait le livre de la résolution ou le directoire chrétien. Autrement dit, un livre sur qu'est-ce que c'est que de devenir chrétien, de vraiment chrétien. Voilà, un livre qui a eu énormément de succès, beaucoup d'éditions. Et Benoît en dit lui-même du livre du jésuite, Robert Parsons, car 3 ou 4 jours après mon arrivée, il advint que voyant un petit livre, de la vue duquel je fus épris, je me mis à regarder dedans. Et voyant que c'était celui duquel j'avais entendu parler avec beaucoup de louanges, je fus incontinent attiré d'en lire quelque chose. Mais pas avec résolution d'en suivre les enseignements, puisque c'était un catholique jésuite. Pourquoi que ce soit que j'y trouvasse de bon ? C'est la langue du 7e siècle. Pendant plus d'une semaine, il se débat avec sa conscience. Il est pris entre les divertissements auxquels ses amis l'invitent, et puis cette lutte intérieure, parce qu'il se sent attiré par la perspective d'une vie meilleure avec Dieu. Alors naturellement, c'est comme tout à l'heure avec le truc pour le... Comment ça s'appelle ? L'alarme. Le démon s'en mêle. Voilà. Alors il dit de lui-même, il raconte, Benoît, que ça lui est arrivé. Alors le démon lui dit, « Tu sais bien que si tu laisses cette vie plaisante, tu n'en jouiras d'aucune joie, d'aucun plaisir, d'aucune consolation. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, tes amis ? Quant à ce qui est de la réputation des hommes, tu vas la perdre entièrement. Et parmi les sages, tu seras estimé un fou. » Peu après, il te sera impossible de t'abstenir des péchés ordinaires. Une bonne vie est trop difficile à continuer. Considère si quelqu'un vit comme tu voudrais vivre, mon pauvre. Alors l'adversaire ne se prive pas de lui citer l'argument puritain par excellence. L'argument puritain, c'est l'excellence. Par ta seule foi, tu pourras être sauvé, puisque c'est ce que disait Luther, la justification par la foi. La foi sauve, il suffit de croire, et puis après le reste, ça, voilà. Tu fais ce que tu veux. Alors, autre tentation, le démon lui montre que la plupart des autres personnes qui ont lu le livre du jésuite ne sont pas pour autant devenues meilleures. Le démon lui dit « Et quoi, peux-tu faire davantage qu'eux? Présumes-tu d'avoir plus de force qu'eux ?» Et il dit « Benoît, ceci m'étonna grandement et m'affligea. » Alors, qui plus est, l'adversaire veut le convaincre qu'il est prédestiné peut-être à être damné, puisque la prédestination, la double prédestination dont parlait Calvin, dit ça. Mais il y en a qui sont prédestinés à être sauvés, bon, et puis d'autres qui sont destinés à être envoyés en enfer. Mais William Fitch, quand même, il répond au démon. Mais il ne répond pas directement, il a dû lire des livres d'exorcistes, non, sûrement pas, mais il répond « Mais votre main, Seigneur, s'étendit sur moi, qui m'en délivra par cette inspiration, que de ma part, je ferai bien mon devoir. Et ainsi, j'expérimenterai si je devais être sauvé ou damné. De sorte que quiconque se comportera de la sorte ne pourra jamais se perdre, si on veut faire son devoir comme il faut. » Alors, quelques jours après, tout d'un coup, il prend une décision, aidé par la grâce divine, sûrement. Et soudain, les plaisirs du monde lui semblent sans valeur. Néanmoins, en ce début de conversion, il n'y a que son cœur qui est changé. Mais il se dit, ça serait bien si mon intelligence aussi. Alors il regarde et il voit que dans le royaume d'Angleterre, il y a des opinions variées en matière de religion. De chaque côté, quel qu'il soit, il y a des hommes sages et doctes. Mais comment atteindre, dit-il, à la parfaite connaissance de la vérité. Alors il quitte ses amis tout de suite. Il retourne à Londres, où il veut trouver des livres pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Et puis il réfléchit, il prie et il jeûne. Après quelque temps, il retourne au calme dans la campagne. Et un soir où il se promène, il a une vision complexe. Une vision complexe, on verra plus tard, sur laquelle il s'interroge longuement. Alors, revenu à Londres, il décide, comme le lui a conseillé un ami catholique, parce qu'il y avait quand même des amis catholiques, de se détourner des controverses. Et voilà la méthode qu'il va employer maintenant. Je me résolus, plutôt que de les étudier tous, les points de controverse, d'en étudier quelques-uns des principaux. Et pour lui, le principal, c'est la présence réelle de Jésus-Christ au Saint-Sacrement. Je pensais que celle-là peut être la vraie religion et la Sainte Église, laquelle présume une chose si grande et si merveilleuse et qui commet la si grande erreur que de croire que Jésus-Christ est là où il n'est pas. C'est un peu alambiqué comme truc, mais ça veut dire, bon, ben, si c'est là qu'il est, Jésus, dans l'autel, dans l'hostie, voilà, c'est la vérité, puis voilà. Voilà. Et donc, il est en proie à un combat spirituel intense. Il a beaucoup de mal à trouver le sommeil. Il dit lui-même dans sa biographie, autobiographie, enfin, qui a été ensuite écrite par un abbé en France, l'abbé Jacques Brousse, et ça a été traduit en anglais, alors je n'ai pas le bouquin ici, mais c'est pas la peine, ça ne dit pas plus. Alors et voilà, il dit « Fort volontiers, je me fusse levé la nuit, si juste une compagnie avec laquelle j'eusse pu me consoler, mais la nuit ne le permettait pas. De sorte que je demeurais en un misérable état, cruellement oppressé sous un fardeau de misère. » Fin de citation. Mais Dieu lui fait la grâce de comprendre que les suggestions angoissantes qui l'agressent sont le fruit de l'action du démon. Alors il veut reprendre son enquête rationnelle, mais voilà que le Seigneur le devance. Et voilà ce qu'il dit à propos de ça. « Mais votre bonté, Seigneur, et votre miséricorde sont tellement excellentes que, incontinent, c'est-à-dire aussitôt, vous